Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Marie Folcon.
Bonjour.
De Jacques Couture.
Bonjour.
Et de Chéri Bianca.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera le bonheur sans objet. Il y a beaucoup de gens, je dirais même la majorité des gens, pensent que le bonheur est impossible si on n'a pas d'amour, si on n'a pas des possessions, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de maison, si on n'a pas tout ce qui est le fla-fla extérieur. Ces gens-là n'arrivent pas à saisir que le bonheur n'est pas relié à l'avoir, mais à l'être. Et donc, aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet très intéressant qui nous ramène vers le bonheur sans objet. Qu'en pensez-vous, mes amis? Dans une société matérialiste comme ici, ce n'est pas évident d'être heureux sans objet.
Effectivement, c'est comme tu dis, comme c'est une société matérialiste, là, c'est sûr que tout va vers l'extérieur, tout va vers le matériel et que tout est conçu pour que, en fait, le bonheur, tu vas aller le chercher à l'extérieur de toi. Tout est vraiment conçu pour justement que tu sois heureux à travers quelque chose et rien du tout de l'intérieur, en fait. C'est tout le contraire, hein. C'est fou, là, mais c'est ça qui arrive. Et puis tout le monde le croit, en fait, parce que c'est sûr qu'il y a une certaine excitation. T'achètes quelque chose de nouveau, tu vois, graduellement, tu sais, puis même tout petit. Ah, tiens, un petit cadeau pour ci, tiens, ah, tu vas t'amuser avec ci. Ça. T'as tout de suite des choses qui t'arrivent de l'extérieur, là, dès que t'es petit, là, boum, 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 boum. Alors, c'est sûr qu'après, t'identifies ton bonheur à l'extérieur de toi.
C'est vrai, on vient de sortir justement du temps des fêtes. Et si tu as le malheur de ne pas donner de cadeau à quelqu'un, juste lui dire joyeux Noël, ça
gâche tout. L'autre, il attend quelque chose parce qu'il a l'habitude de recevoir de l'extérieur là, pour lui faire plaisir. Là. Les gens ont du mal à concevoir qu'ils peuvent avoir du plaisir sans justement qu'ils reçoivent quelque chose. Là.
Mais on reçoit, il faut dire, d'une façon toujours indirecte, par notre présence, notre manière d'être avec les gens. Je pense que c'est ainsi là, que, dans un premier temps, par intussusception, c'est-à-dire par soi-même, t'sais, on le fait naître, on fait exister cet échange, le goût de partager un bonheur, de se sentir heureux d'abord avec soi-même, en vue de l'être avec les autres.
Oui, et des fois, parfois, il y a ces petites choses que les gens pensent ne prêtent pas vraiment attention. Ils pensent des fois que c'est les grandes choses qu'on doit leur offrir, mais c'est des petites choses qui sont vraiment importantes. Comme dit Mahatma Gandhi, c'est l'attention qu'on porte à de petites choses, en fait. C'est juste le sourire que vous apportez à quelqu'un. C'est ça le bonheur, d'après moi.
C'est ça. Ma mère, quand elle me dit que quand elle était jeune, il recevait à Noël des oranges. C'était très, très spécial. Alors que nous, ici, là, c'est les tonnes de cadeaux. Et puis moi, j'aime pas beaucoup les fêtes pour ça. Je trouve que c'est devenu très, très commercial. On a perdu l'essence. Je pense que la majorité des gens ont perdu l'essence de c'est quoi les fêtes, c'est quoi Noël, par exemple. Et quand ça en est revenu juste à donner des cadeaux, à recevoir des cadeaux. Moi, depuis quelques années, même depuis très longtemps, j'ai pratiquement boycotté cette fête. Je préfère donner mes cadeaux après, comme juste pour dire un mois après, je vais donner des cadeaux.
Ouais, plus l'effet de surprise aussi, c'est plus fun. Ouais. Parce que les gens s'attendent à quelque chose. Et moi, c'est pareil, je donne des cadeaux comme ça n'importe quand, là. Même pas aux anniversaires, rien. Ça, c'est comme n'importe quand, là, quand ça me tente. Là.
Et des fois, on voit comme Noël devient comme une situation de stress. Le fait de trouver, d'aller chercher les choses pour les gens, d'aller trouver pour combler leurs attentes, ça fait oublier totalement c'est quoi vraiment Noël, c'est quoi le bonheur de partager, en fait.
Oui, puis pas nécessairement juste Noël, les fêtes aussi, les fêtes des gens. Moi, j'oublie les fêtes très facilement. Puis on m'a déjà dit que j'avais blessé des gens parce que je les avais oubliés, puis je n'avais pas appelé. Mais je peux pas me rappeler de toutes les fêtes. Je veux même pas me rappeler de la mienne. Parce que moi, je veux pas fêter ma fête. Parce que chaque fois que tu fêtes ta fête, c'est, tu dis, bon, je viens de vieillir une année de plus et ton corps l'entend. Donc, si tu veux vivre dans la vie éternelle, si tu veux être éternel, il faut arrêter de compter les années. Parce que de toute façon, l'éternité, c'est tellement vaste qu'un an de plus, un an de moins, ça change pas grand-chose.
effectivement. Ça ne change rien du tout.
L'idée que
mais parce que tu es dans la tête, tu sais, c'est
on
comme...
On renaît de chaque instant aussi des occasions nouvelles et tout. On a le goût de, c'est ça, d'être pleinement soi-même maintenant, dans le temps présent. Ça, c'est extraordinaire. Ouais.
Ben, c'est ça le bonheur, comme on parlait du bonheur par rapport à l'extérieur, là, les gens là, dans le matérialisme et tout. Mais même les petites choses, moi je dirais, je veux aller plus loin, parce que même si c'est encore même petit, c'est pas une histoire de gros petit pour moi, parce que même si c'est petit, bon, ben, c'est quand même quelque chose d'extérieur, ok? Parce que moi j'ai déjà quand même expérimenté des gens qui font la gueule tout le temps, qui sont jamais contents et tout, mais qui vont rien m'offrir, qui vont me faire la gueule, qui vont me traiter n'importe quoi, qui vont me cracher à la face et tout. Mais moi je garde le sourire, tu sais, parce que ça peut pas me toucher. Parce que quand tu es touché, c'est parce qu'il y a une réaction au niveau de l'ego, parce que tu as une image de toi qui ne correspond à pas ce qu'il va dire ou ce que la personne pense. Mais si tu sais qui tu es, tu vas savoir que bah, non, ce n'est pas ça. T'sais. Puis même si tu me craches en pleine face, bah, j'ai juste pitié pour lui. Puis ça, c'est juste que c'est son ignorance qui lui a fait faire cet acte-là, c'est tout.
Ouais, et, des fois...
et tu restes dans le bonheur. Il n'y a absolument rien de l'extérieur qui peut aller te toucher quand tu es vraiment dans l'être. Vraiment rien, là. T'sais. Bien souvent, les gens, l'instant présent, là, c'est comme, oh, oui, il fait beau, je suis une terrasse, je suis en train de boire un verre et tout fait beau. Ouais, mais l'autre fois, tu n'étais pas comme ça quand tu avais perdu ta carte de crédit. Hein. C'est comme ça qui arrive. Non, je vais vous laisser parler quand même.
Ou bien, quand tu voulais dire quelque chose.
Oui, et des fois, lorsque vous restez comme vous prouvez que vous êtes heureux de votre façon, ça se projette sur les autres personnes. Donc, juste le sourire que vous faites à une autre personne, ouais. Que vous le regardez, donc ça le rend heureux. Même pas parler, même pas offrir quelque chose de grand, mais juste le sourire, donner quelque chose à quelqu'un, le porter secours, l'aider à l'expliquer quelque chose, tout ça montre à la personne que vous êtes heureux et que vous voulez aussi qu'il soit heureux.
Moi, j'ai fondé mon bonheur justement à l'intérieur parce que je me suis rendu compte que les gens, en général, sont dans l'impermanence. Majoritairement, j'ai rarement rencontré des gens qui sont fixés dans la permanence ici sur la Terre. Si on parle des relations amoureuses, c'est généralement très, très difficile d'avoir des relations à long terme avec des gens. Même en affaires, les gens changent d'idée, nous mentent, etc. Mais moi, j'ai été plusieurs années sans travailler, sans avoir d'argent, donc J'ai pas pris l'habitude de baser mon bonheur sur l'extérieur. Moi, j'ai basé beaucoup mon bonheur sur mon œuvre à moi, parce que ça m'appartient, mes livres, mes idées. Je sais qu'on pourra jamais m'enlever ça. Même si ma maison brûlait, je perdais tout. Mes idées sont encore là. Même si je perdais mes livres, je pourrais les réécrire. Mes idées sont dans ma tête, sont à l'intérieur de moi. Donc, mon bonheur, moi, je le trouve vraiment permanent parce que j'attends pas des autres qui vont me donner le bonheur. J'attends des autres d'un supplément, le plaisir d'être avec eux, mais le bonheur, certainement pas.
Oui, en plus de ça, si tu attends qu'ils te le donnent, tu peux toujours attendre, parce que quand tu vois comment ils sont, quand tu es heureux, toi, puis là, les gens, ils sont comme... C'est, ça leur fait peur, là, limite, là. Tu sais, t'as l'impression d'avoir un gun entre les dents quand ils sourient, là. Ça me fait vraiment souvent ça. Parce que les gens, c'est toujours soit la jalousie, parce qu'ils veulent être comme ça, mais ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas comment faire, et encore, ils n'ont même pas la volonté d'appliquer, si tu leur dis, tu sais. Donc, c'est sûr, là, c'est comme...
Mais c'est sans doute un indicateur du type de lien qu'on a avec les gens, à savoir, moi, je pense à ma mère tout de suite, une communion, une présence depuis l'enfance et tout. Je me dis, en fin de compte, j'aurais aucun moyen de lui offrir un cadeau, mais juste d'être là, c'est un bonheur pour elle extraordinaire et pour moi aussi de le vivre, parce que même si moi aussi, je suis pas très temps des fêtes, là, mais je pense au temps des fêtes en pensant quand j'étais petit, je me rappelle une année, ma mère avait sans doute pas beaucoup de moyens, j'avais reçu comme un petit cahier ou plutôt comme des feuilles blanches. Ça m'avait étonné, un paquet de feuilles lignées pour l'école et tout. J'ai trouvé ça extraordinaire comme cadeau. Je m'en rappellerai toujours de ce cadeau-là. C'est comme, je pense, ça n'a aucune valeur, ça vaut peut-être même pas un dollar et tout. C'est pas une question d'argent. C'est une question que il était enveloppé, c'était mon cadeau de Noël. C'était peut-être pas le seul, mais je ne m'en rappelle pas exactement. Mais je sais que parmi mes cadeaux d'enfant, je pense que c'est celui que je me rappelle le plus. Okay. Mon paquet de feuilles lignées. c'est ça. Mais c'est l'intention, c'est du fait que j'ai un lien privilégié, que je l'aime au-delà de ces considérations-là. Oui.
Mais moi, je vois que dans mon enfance, j'avais été programmé. On dirait que c'était un dû pour moi. Je devais recevoir de ma marraine un cadeau à Noël, à ma fête, de mes familles, de mes parents, etc., parfois de certaines de mes tantes. Et j'avais pris ça pour acquis. J'en avais pas nécessairement besoin pour être heureux, mais je vois que pour certains, ça peut être assez vital quand ils deviennent adultes. C'est cette vieille habitude qui est toujours là depuis leur enfance. Et ils vont l'inculquer à leurs enfants aussi. Et moi, ma soeur a des enfants et je suis le parrain d'un d'entre eux. Et puis, souvent, je n'envoie pas de cadeaux. Je ne veux pas l'habituer à être, que je sois juste le pourvoyeur de cadeaux. Je veux être son ami s'il le veut, mais je veux pas reproduire ce système-là. Mais c'est difficile parce qu'il y a une attente. Et si je donne rien, l'autre fois, je voyais bien qu'il voulait un cadeau. Il me faisait plein de petites phrases par en dessous. Je dis, ouais, ça va être ma fête la semaine prochaine.
C'est quoi que t'essayes de dire, là?
Je vais ouvrir mes cadeaux. Puis là, c'est sa mère.
C'est un cadeau que tu cherches, ben, tu l'auras pas.
Et ça, c'est sa mère qui m'a dit, ben, tu vois-tu, il essaie de dire quelque chose.
Moi, j'ai rien vu, moi.
Ah, OK. J'ai donné un 10$, puis un 20$. J'ai dit, achète ce que tu veux parce que vraiment, je suis pas bon pour donner des cadeaux à un jeune enfant comme toi. Mm-hmm. Bon, on va faire une pause musicale avec la chronique de Safia, l'art d'être heureux, et on revient avec ce thème, le bonheur sans objet.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur et du 7e lever du bonheur de l'art d'être heureux. Quelle clé permet d'apaiser notre relation aux autres, de faire taire notre saboteur interne et s'autoriser à avancer vers une vie plus épanouie. Une réponse présidentielle. Le président Bill Clinton a demandé un jour à Nelson Mandela comment il est parvenu à pardonner à ses geôliers. Ce dernier lui a répondu « Quand j'ai passé la porte, je savais que si je continuais à détester ces gens, j'étais encore en prison. » Pardonner. Le pardon n'est pas l'oubli, ni une excuse ou validation, et pas plus une réconciliation ou restauration. Il ne fera pas de vous un saint ou un juge, et il n'effacera pas le tort causé. C'est la voie du dernier recours. Pardonner l'inexcusable pour les cas désespérés et incurables. C'est un cadeau que l'on s'octroie à soi. Pardonner, c'est perdonare, donner quelque chose à quelqu'un. Donner son droit de ressentiment pour s'en libérer. La psychologie enseigne traditionnellement que le dommage soulève trois types de réponses. Le déni, la vengeance ou l'évitement. Mais ces trois comportements entretiennent le ressentiment et la colère. Ne devons-nous pas choyer notre personne, lâcher les émotions négatives et quêter les moyens d'aller bien? Le pardon est un changement de pensée. Il permet de se concentrer sur autre chose, sur les aspects positifs de la vie. Et c'est ce déplacement de l'esprit qui assure la transformation. La blessure devient cicatrice. Pas un mal envahissant, une douleur à plaie ouverte, mais un historique, simple rappel du passage. Pardonner pour se libérer des torts que l'on tient sur soi, que l'on reçoit, que l'on inflige. Alain nous dit « Pardonner à soi, c'est plus rare qu'il ne faudrait, et c'est souvent la première condition si l'on veut pardonner aux autres. Nous sommes tous humains. Présentez et acceptez les excuses. Osez vous réconcilier avec vous-même, avec le monde. » Pour le docteur Luskin, qui a longtemps travaillé auprès de victimes de la guerre en Irlande, le pardon est une réappropriation de pouvoir, passant du statut de victime à celui de héros. Il définit le pardon comme l'expérience de la paix dans le présent. Le pardon ne change pas le passé, mais il change le présent, et ses bénéfices sont illimités. La recherche a montré que le rappel des torts commis dans le passé peut conduire à une variété de problèmes physiologiques et psychologiques, incluant le développement de maladies cardiovasculaires cardiaques, le cancer ou l'hypertension. Au contraire, le pardon conduit à des relations plus saines, à moins d'anxiété et d'hostilité. Il permet un grand bien-être psychologique et spirituel, ou également la réduction de la toxicomanie. Les avantages du pardon sont si nombreux que je vous invite cette semaine à utiliser pleinement son pouvoir. Prenez quelques minutes pour répondre sincèrement aux questions. Y a-t-il quelqu'un dans ma vie que je sens avoir besoin de pardonner? De quoi dois-je faire mon deuil? Osez choisir le pardon et pardonnez-vous vous-même de n'avoir pas laissé entrer la paix plus tôt. Choisir le pardon, c'est choisir la paix, choisir l'amour. C'était Safia pour l'art d'être heureux et je vous souhaite de parvenir à goûter les joies du pardon. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur propossurlebonheur.com. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est le bonheur sans objet. Dans le monde aujourd'hui, il y a une sorte de terreur qui est liée à l'avoir. Les gens ont peur de perdre. C'est les médias en renforçant aussi avec les épidémies, la crainte des crashs boursiers, de ci, de ça. Alors, je trouve que la majorité des gens embarquent comme des moutons. Ils ne se posent même pas la question à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis là, c'est la grande course à avoir des maisons. Moi, ça m'intéresse même pas. Je vois pas pourquoi je m'endetterais. Je connais juste une personne qui a acheté sa maison cash. C'est quelqu'un qui était très riche puis qui a mis tout son argent dans sa maison. Moi, je dis, oh, je te lève mon chapeau. Mais la majorité des gens qui achètent des objets qui n'ayant même pas l'argent, moi, je trouve ça un peu ridicule. Et puis souvent, j'en ai vu qui achetaient des REER avec l'argent qu'ils n'ont même pas. Ça, c'est de la crainte vraiment de ne pas avoir quand tu es vieux, là, vraiment. Puis ça, avec le temps, je crois que ça finit par apparaître dans le visage des gens. On peut le voir après 50 ans, 60 ans, ceux qui ont cette crainte, qui n'ont pas d'être, ça apparaît dans le visage.
Ah ouais, c'est sûr. C'est marqué là, au niveau du visage, tout ce qui est stressé, tu sais, les rides entre les deux yeux quand ils froncent les sourcils, etc. Mais c'est aussi quand même logique. Parce que justement, comme ils vont chercher leur bonheur à l'extérieur avec toutes ces choses, c'est sûr qu'ils vont avoir peur de le perdre. Hein? Donc, c'est proportionnel, ça, à la peur. Là, parce que leur bonheur, c'est ça, leur bonheur. Tu comprends? Donc, ils mettent tout sur ça. Leur bonheur, c'est ça. Donc, s'ils le perdent, ben là, ils vont être malheureux. C'est évident. Donc, c'est le cercle vicieux, quoi.
Et des fois, ces gens-là associent vraiment le bonheur à ses avoirs. Et ils oublient. Le bonheur, c'est quoi en fait pour eux? C'est la voiture, c'est la maison. Et l'importance devient maintenant la maison, c'est pas le bonheur que ça peut leur acquérir. Donc, du moment, ils sont stressés, ils veulent l'avoir parce que les gens le regardent et c'est ça qui fait le bonheur. Donc, ils sont stressés, ça devient vraiment maladif.
Peut-être voir ça sous un angle opposé et tout. J'ai un ami, il m'a dit s'acheter une voiture qu'il aime extraordinairement. Tu sais, c'est pas parce que je le sens pas comme quelqu'un qui est matérialiste que c'est vraiment sa réalité. Tu sais, son absolu en soi. Il me dit, il y a pas rien de tel que ma BM. Il dit, c'est le plus grand des bienfaits que j'ai. Il y a pas de médicament qui peut surpasser ça. Pour lui, c'est le summum de sa joie, de son rêve et tout. Puis il le fait sans que ça déséquilibre sa vie, sans qu'il doive vivre toutes sortes de problématiques d'endettement ou quoi que ce soit. Il l'a pas acheté neuf, il l'a acheté intelligemment, il avait beaucoup de moyens déjà. Donc, il s'est fait plaisir par-dessus tout. Donc, on peut voir ça, même si c'est sans objet. Qu'est-ce que la voiture, oui, elle l'a.
L'objet est là, c'est la voiture.
Oui, mais quand même, il n'y aurait pas sa voiture. Il y a quelqu'un de très heureux, de façon générale.
C'est ça qui est important, oui.
Ça rajoute de la joie.
Sauf que le problème qui arrive à ce moment-là, c'est que justement, sa fameuse BM là, qui divinise, là, c'est si d'un seul coup, on la frappe, ou si d'un seul coup, et c'est là que le problème survient, parce que justement, il y a l'attachement à cette chose.
Tout à fait.
Donc, ça revient comme au même, là, je dirais. T'sais. Mais je pense que ce qui peut arriver de mieux aux gens, c'est justement de tout perdre. Ouais. Parce que quand tu n'as plus rien, c'est là que tu fais face à qui tu es, et c'est là, à ce moment-là, intervient une expansion de conscience.
Exact. Pour s'éveiller, moi, je l'ai compris très bien, il faut ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce que lorsque tu t'éveilles réellement, tu perds tout. Moi, je me souviens, quand c'est arrivé, j'ai perdu presque tous mes repères. J'avais rien, de toute façon, j'avais aucune possession. Si j'en avais, je les aurais probablement perdus, parce que quelqu'un qui est heureux, là, dans un point, culminant, il n'a plus le goût de travailler. Là. Il n'a vraiment plus le goût de faire les choses que Monsieur Tout-le-Monde vont faire de manière automatique, parce qu'il y a de la conscience. Lorsqu'on est conscient, on se rend compte qu'il y a c'est pas nécessaire, l'argent, on peut l'avoir d'une autre manière. Moi, j'ai toujours su que l'argent, je pouvais la demander du gouvernement, demander à des amis de m'aider. J'ai toujours reçu ce dont j'avais besoin. Et pour moi, le bonheur n'était pas lié justement à le fait d'avoir une maison. Je voyais bien que j'étais pas comme les autres à l'âge de 24 ans. Quand j'ai dit, moi, je veux plus travailler, pendant au moins 10 ans, j'avais vraiment pas d'argent. J'avais 600$ par mois qui allait tout de suite dans mon loyer. Donc, quand j'avais besoin de l'aide, c'était ma compagne de cette époque qui finissait par me l'acheter, parce que finalement, ça ne me dérangeait pas, moi, d'être habillé toujours de la même manière. On allait dans les friperies à Montréal, il y a des endroits qui donnent de la nourriture. J'avais pas honte, mais je sais bien que la majorité des gens n'auraient pas pu faire ça. Moi, j'ai une amie qui venait de sortir aussi de l'université comme moi. On avait fait administration des affaires. Puis elle, elle voulait rien savoir. Elle dit non, moi, je veux pas survivre. Mais elle préférait travailler comme une folle, puis elle s'était mise à prendre de la cocaïne, justement. Tu sais, je prends de la poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour acheter plus de poudre, pour travailler plus. Pour... Et c'était le wow! C'était... T'as travaillé toute ta vie, t'as fait un baccalauréat, puis tu vas tout de suite t'embarquer dans le marché du travail sans réfléchir. Mais ça, moi, maintenant, je suis heureux parce que mon travail me nourrit. Et je pense que c'est pas le cas pour la majorité des gens.
Moi, je pense comme, par exemple, le bonheur, c'est comme un état d'esprit, en fait. On peut avoir peu et être heureux, et avoir beaucoup et n'être jamais satisfait. En fait, il y a des gens, pour lui, par exemple, si on prend, par exemple, il y a des endroits en Orient, il y a beaucoup de guerres, mais les gens, ils peuvent avoir un peu de bonheur. Mais c'est pas être, par exemple, en Amérique et avoir une grosse maison, avoir une belle voiture, qu'on peut dire qu'on est heureux. On peut avoir plein de soucis et avoir beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est plus un état d'esprit. Donc, si tu vois, tu peux avoir moins de choses et se sentir vraiment heureux, épanoui dans la vie.
Nicolas, j'aimerais venir sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure.
Tu peux venir sur ce que j'ai dit.
Oui.
Okay, ça va être les bonheurs sans aucun objet, s'il y avait des objets. Là.
Attends, je ne sais pas s'il y a eu un malentendu, un problème d'audition ici, mais tu disais que justement, par rapport à l'idée du travail, donc le fait de travailler pour, dans ton cas, je pourrais peut-être paraphraser en disant, plutôt que de travailler, c'est de s'investir dans ce que l'on aime. Peut-être tu fais maintenant une tâche qui t'est propre, ton entreprise et tout, travailleur autonome. Donc, la plupart des gens doivent s'investir autrement, c'est-à-dire sans être libres dans ce qu'ils sont, par obligation, vont travailler à une tâche qu'ils n'aimeront pas. Ils le feront par sentiment de survie. Donc, c'est bien différent. C'était juste comme ça, c'était pour remettre les choses en perspective, parce que tu as dit, moi, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais voulu travailler, mais en ce moment, tu as quand même ton entreprise et tout, mais si tu y travailles, mais d'une façon différente.
Ben, tu sais, comme tantôt, tu parlais de ton ami avec un auto. Moi, je pense qu'il y a toujours deux manières de voir les choses. S'il est déjà heureux, puis il ajoute l'auto est un supplément.
Tout à fait.
Mais s'il n'est pas heureux, l'auto est un complément. Et là, c'est dangereux. Si tu perds, c'est la même chose dans les couples. Si ta compagne ou ton compagnon est un complément et c'est ça ton bonheur, puis là, il va nécessairement un jour ou l'autre soit mourir, soit partir, soit rompre. Et là, c'est la fin du monde pour... quelqu'un qui a bâti une famille là, depuis des années, depuis 20 ans, et là, tout d'un coup, le mari meurt d'une crise cardiaque. C'est la fin. Moi, j'ai des tantes comme ça que ça vous est arrivé. Pas capable de s'en remettre. Là. Ça fait 6 ans, puis ils sont encore en dépression.
Il y a même des rituels culturels. Hein. Il y a je connais aussi une italienne âgée d'une autre génération. Puis, parce que son mari est décédé, elle est en deuil depuis 5 ans. Donc, pour elle, sa vie, c'est d'être en deuil. Donc, quelle vie, hein? C'est un bonheur sans objet, peut-être qu'on pourrait dire. mais quand même, quelle souffrance que doit-elle vivre, cette dame-là?
Bah, c'est sûr que c'est proportionnel au nombre d'années que tu as vécu avec une personne qui était tout le temps là. Tu vois, mais c'est quoi, elle n'est plus là? C'est sûr que
tu as
fait un trou. Donc, si tu n'as pas une recherche au niveau intérieurement, c'est sûr que là, tu te retrouves devant le néant, là, puis tu es en deuil. Là, si tu veux faire.
Je pense qu'il faut préparer ces choses-là. C'est un peu pour ça, moi, que je crois qu'on devrait vivre à plusieurs, autant en amour qu'en affaires. Moi, j'ai plusieurs clients, par exemple. J'en ai une quarantaine. Quand j'en perds un, j'en gagne un autre. Je peux leur dire ce que je pense et c'est la même chose en amour. Je peux dire à ma compagne ce que je pense parce que je sais que de toute façon, j'en ai plusieurs autres qui vont venir et qui vont être là en même temps. Donc, je ne me ramasserai pas dans 20 ans tout d'un coup seul parce que je n'ai pas préparé mon coup, que je n'ai pas pensé à tout. S'il y en a une de mes compagnes qui meurt, bien, les autres vont m'aider, vont m'appuyer. Et pour moi, ça, c'est important comme modèle de vie. Et c'est peut-être ça le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on fonde le bonheur sur des choses qui sont impermanentes. La maison, la famille traditionnelle. Les enfants finissent par partir un jour ou l'autre. Le conjoint finit par mourir ou par rompre ou devenir aphasique, je ne sais pas.
Ne plus désirer la personne. Ouais. Tout pour sortir de raison,
ça fait partie de la vie. Ouais. Et je pense qu'il faut être prévoyant. Être intelligent et penser plus vaste.
Mais même si on prévoit, si on arrive à tout prévoir, pensez-vous que ça va avoir toujours le même sens, en fait? Parce que le fait de tout prévoir dans la vie, de tout penser, de tout schématiser, ça va retirer tout le sens que ça devrait avoir.
Eh bien, nous allons répondre à cette question après la pause. Alors, j'invite les gens, les auditeurs de Radio Centre-Ville à venir écouter la fin de l'émission sur proposurlebonheur.com. Et nous allons passer à une pause musicale avec la chanson de Daniel Chenevez qui s'appelle « Sans raison aucune ».
On s'est frôlé une nuit d'émeute, une nuit d'orage. On s'est perdu dans les couloirs, retrouvé dans toutes les gares. Aperçu un soir dans un bar, un soir de bagarre. Toi, 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 à chacun de mes pas, du ciel d'Arizona aux rives du Delta. Et sans raison aucune, j'invoquerai la lune, ou l'air que tu consumes, un cierge que je rallume. Le long des plaines, le long des forêts, devineras-tu à quoi je pensais. Je t'ai croisé dans les parages, et combien de fois dans ma tête, aux endroits où l'on se presse et ceux où l'on ne s'arrête. Je t'ai vu dans les rues de Londres, aussi belle qu'une tornade. Sur le quai du port de Grenade, j'ai suivi ton nom. À la frontière du cercle polaire, à l'écart des chemins de terre. Et sans raison aucune, j'invoquerai la lune, ou l'air que tu consumes, un cierge que je rallume. Le long des plaines, le long des forêts, devineras-tu à quoi j'ai pensé? Derrière les murs qui s'effondrent, des terrains vagues et des décombres, quand il fait toujours sombre. Toi, 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 à chacun de mes pas, du ciel d'Arizona aux rives du Delta. Et sans raison aucune, j'invoquerai la lune, ou l'air que tu consumes, un cierge que je rallume. Le long des plaines, le long des forêts, devineras-tu à quoi j'ai pensé? Le long des plaines, le long des forêts, sauras-tu jamais que sans raison aucune, j'invoquerai la lune, l'air que tu consumes, un cierge que je rallume, oui sans raison aucune.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est le bonheur sans objet. Alors, avant la pause, Bianca avait fait la remarque à propos de que les gens planifient beaucoup trop souvent et ça pouvait poser un problème, retirer une certaine, un certain sens à la vie ou au fait de...
Ouais.
Et puis, ben, je suis d'accord, je pense qu'elle réagissait au fait que moi je parlais d'avoir plusieurs compagnes, mais c'est qu'elle n'avait pas compris nécessairement que j'en voulais trois en même temps. Ce qui n'est pas très habituel, mais tu as raison pour la majorité des gens qui, eux, vont prévoir beaucoup trop au niveau, par exemple, des REER. Je connais des gens qui ont 25 ans et qui commencent à investir dans des REER. Je dis, ben voyons donc, mets donc cet argent dans des choses qui vont te faire plaisir, sur toi, ou des gens qui vont mettre des placements. Combien de gens ont mis de l'argent dans des placements, puis quand c'est arrivé le temps de les avoir, ils n'avaient plus d'argent, l'argent n'était plus là, même le régime des rentes, c'est quelque chose qui est dans l'air aujourd'hui. Là. Les policiers font des grèves présentement. Ils ont peur qu'ils vont se faire enlever leur argent quand ils vont être plus vieux. Il y a toute cette peur qui est quand même attisée. Et puis, si les gens faisaient confiance, s'ils se faisaient confiance, moi, quand on me dit qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être vieux, ben moi, je dis, quand moi j'ai de l'argent, je publie mes livres, je les mets dans un entrepôt. Puis quand je vais être vieux, je vais être connu, puis je vais les vendre mes livres. Donc ça, c'est une confiance hyperbolique. Et j'ai aucune preuve que ça va fonctionner. Mais si moi-même, je ne crois pas en moi, qui va croire en moi? Mm-hmm. Donc, en ce sens, tu as raison. Bianca. Chérie Bianca. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Oui, c'est une bonne idée, en fait. C'est mieux de faire confiance en soi, en fait. Parce que des fois, les gens pensent que tout planifier, tout avoir écrit... ça donne plus de chances de réussir, en fait. Mais avoir plus confiance en soi, je pense que ça procure plus de bonheur, plus de vous savez mieux c'est quoi les priorités, c'est quoi qui va vous faire heureux dans les années à venir.
Justement, pour se rendre heureuse, le point j'aimais, quand, un peu plus tôt en début d'émission, il était question de s'investir dans ce que l'on crée, c'est vraiment ça qui nous rend heureux, c'est plutôt que le travail qui nous éloigne de nous. Vu que tu parlais, Nicolas, vu que tu es artiste également dans tes œuvres et tout, tes livres et tes bandes dessinées. Donc, je pense qu'il faut en arriver. Je souhaite, moi, que cela aussi. J'aime beaucoup participer à l'émission. Je pense qu'il y a un côté créatif. On apporte de soi-même, de nos réflexions, de notre manière de penser, de vivre. J'aime aussi l'idée d'être pleinement satisfait de soi. Il y a des pensées de grands philosophes et tout qui disent, qui ressentent vraiment profondément, qu'ils s'aiment démesurément jusqu'à s'en embrasser les mains, avoir de la difficulté à dormir, tant qu'ils sont excités par ce qu'ils sont, par leur imagination gigantesque. Je ne sais pas trop comment qualifier cette imagination, ce qu'ils sont profondément. Ça, c'est une autre façon, j'imagine, de vivre le bonheur sans objet. C'est parce que c'est en nous, on n'a pas besoin d'aller le chercher nulle part ailleurs. Hein. Donc, cela, je pense que c'est à cultiver ce bonheur-là qui est en nous.
C'est pas évident, par contre, hein, parce que la société est totalement axée vers la transcendance aujourd'hui, le transcendant, le Dieu transcendant, l'évolution, toujours se purifier. Donc, on se projette toujours vers le futur, le paradis qui va être après. Moi, le paradis, c'est ici, maintenant. Chez moi, je suis au paradis. Je suis tellement heureux. Cette semaine, c'était pourri comme température. Là. Il a fait des moins 40. Je suis pas sorti, moi. Pendant 4 jours, je suis resté chez moi. J'étais heureux comme ça se peut pas. Ma compagne est là, elle travaille à la maison. J'ai mes 3 chats, j'ai le sapin de Noël, il y a des amis qui m'appellent. Je veux dire, le bonheur pour moi, c'est ça, c'est cette simplicité, travailler sur mes projets. Si je suis beaucoup plus riche un jour, tant mieux, je vais l'accepter, cet argent, et je vais l'utiliser. Mais si ça vient pas, ça ne va pas m'empêcher d'être heureux parce que je suis dans un état tel qu'il ne peut pas être amélioré.
Okay. Ben moi je peux être aussi totalement heureuse en pleine tempête de neige parce que ça fait partie de la création et puis
c'est beau une tempête de neige,
ouais, c'est génial là, c'est ça, puis t'acceptes ce qui est là, on est ouais, qu'est-ce que tu peux faire là, laisse faire là. Donc il vaut mieux t'accepter et puis c'est justement la tempête, elle est là mais elle est en toi à l'intérieur aussi, tout est toi, tout est divin, ça fait que je suis parfaitement heureuse, même si il y a une tempête de neige, moins 40, etc.
Sans auto, sans tous ces objets-là, c'est moins forçant. T'sais, quelqu'un qui va son auto en avant, cette semaine, c'était de la grosse pluie qui est devenue de la glace. J'ai vu quelqu'un en avant de chez moi, il a pelleté pendant 2 heures pour faire sortir son auto du trou parce qu'il allait passer la charrue.
Puis les pneus étaient coincés dans la glace.
C'est une bonne expérience là, pour justement faire l'instant présent ici maintenant. Chaque fois que tu pelles, tu es dedans et là, ça t'énervera pas. Hein.
Mais on devrait nous éduquer dès l'enfance à ces choses de l'intérieur parce que moi, je trouve que l'école est vraiment axée sur le monde extérieur. On te programme à travailler, à être utile, à faire des choses pour tes professeurs et pour tes employeurs, mais il y a pas, tu sais, il devrait avoir des cours de yoga à l'école, ou je sais pas, des cours de réflexion intérieure, des choses.
Il y en a quand même quelques-unes. Rudolf Steiner, il a fait quand même des écoles qui sont basées là-dessus. Là.
Oui, mais ils sont pas acceptés aujourd'hui, malheureusement. Dans le système scolaire ici en Amérique du Nord, franchement, je sais pas toi si tu es encore un peu dans ce système-là. Comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des incitations à grandir à l'intérieur?
Ben oui, je pourrais dire, c'est comme en primaire et secondaire, j'ai 2 éducations différentes en fait. Chez moi, c'était plus axé sur les choses mentales, mais ici, c'est plus professionnel, plus technique. Donc, je pense que ça a une grosse différence en fait.
Quand tu dis chez toi, tu parles chez tes parents ou tu veux dire en Haïti?
En Haïti, chez nous.
OK.
On avait, c'est différent en fait, oui. Ouais, chez nous, c'est différent. Donc ici, c'est plus axé sur technique, à avoir, passer beaucoup de temps à étudier, à avoir plus de connaissances qui fait une grande différence en fait.
Et t'imagines, nous, en tout cas, moi, j'ai grandi ici. Moi, j'ai résisté, mais je suis une exception. Je vois bien là, les gens autour de moi. J'en connais pas, moi, quand j'ai fini l'école, qui ont arrêté de travailler, qui ont décidé de pas travailler, à part des BDistes ou des artistes comme moi, mais on était tous des perdants pour la majorité des gens. Franchement, j'ai été un perdant pendant très longtemps. Même pour ma famille, mes cousins, cousines, j'étais le perdant de la famille.
Mais il y aurait peut-être les cours de musique dans les écoles, les cours un peu parascolaires ou autres, hein, développement personnel avec un certain style là, qui est sans, où les gens sont centrés sur eux, peut-être des approches de... tu parlais de yoga, mais c'est plutôt là, les, le karaté, des trucs asiatiques ou... ouais. Comment on les appelle? Donc, c'est sans doute...
Les arts martiaux.
Les arts martiaux, voilà. Ouais. Vraiment, c'était loin, les arts martiaux dans ma tête, là, en ce moment, qui est sans doute un moyen là, pour viser l'immanence. Là, le tout vient de nous en se concentrant, en ressentant ce qui se passe en soi. Mm-hmm.
Mais moi, ceux qui ont déjà écouté l'émission savent que j'ai une vision peut-être plus radicale. Moi, je crois qu'on devrait totalement éradiquer le primaire. Le primaire est un lieu de torture pour les gens les plus sensibles, les plus intelligents, qui se font tabasser par les plus colons, les plus sauvages, qui eux-mêmes se font probablement tabasser à la maison. Mais si on enlevait ça, ça serait une telle joie de ne pas aller à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Les parents seraient obligés de moins travailler, de s'occuper de nous, de nous apprendre les choses de la vie. Et je pense qu'on serait plus balancé quand on est vieux. On serait pas juste des automates. On aurait appris. On serait plus dans notre communauté au lieu d'être pitché dans une société de jeunes qui n'ont rien à voir avec nous. Moi, j'avais rien à voir avec les jeunes quand j'étais au secondaire, au primaire. J'ai gardé aucun lien avec ces gens-là. Alors que si j'avais été dans une communauté de gens, si mes parents avaient eu une communauté de gens qui étaient plutôt une famille d'élection, qu'on avait été juste avec ce type de gens-là, bien, je pense que j'aurais gardé les liens, mais j'ai rien gardé. Et puis, franchement, j'ai une certaine haine envers le système scolaire d'aujourd'hui qui nous fait du tort. En fait.
Ah ouais. Parce que souvent, quand il y a des moments de retrouvailles et tout, je suis jamais allé non plus. Le 10 ans, 15 ans, ça fait 20 ans qu'on a terminé notre école secondaire, secondaire 5, les graduations et tout. Puis là, j'imagine, on le sait peut-être dans certains films où on relate ce qui peut se passer, hein, les gens se retrouvent. J'ai connu, c'est encore là une fois, aujourd'hui c'est ma journée pour raconter les gens que j'ai connus, qui ont vécu certaines choses. Puis une amie, je la connais peu, mais en tout cas, elle est allée justement à un moment de retrouvailles, je pense que c'était son 20 ans, suite à sa graduation du secondaire 5. Puis là, elle revoit les gens. Puis qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Qu'est-ce que tu fais maintenant et tout?
Ah oui, c'est ça. Hein?
Ouais. Comme t'as changé, t'as plus de cheveux, t'as des cheveux autrement,
ben,
t'as grossi.
Ben, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. C'est très captivant.
C'est ce qu'ils font,
hein?
C'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Ils vont... voilà. C'est ça que tu te racontes à chaque fois.
Effectivement. Hein?
Mais je suis totalement d'accord avec Nicolas. Wow, il faut profiter là.
Sur quel point?
Ben, sur les
écoles.
Ah, oui. Complètement.
Mais surtout, toi, t'es extrêmement sensible. T'as dû vivre ça.
Ça a été l'enfer pour moi, là, toute l'école. J'ai rejeté le système depuis le début. Donc, j'étais vraiment prise. J'ai été crucifiée quasiment, donc.
Ah bon?
Ouais.
Ah,
ouais. Okay. Parce que ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a juste aucun sens, l'école, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça.
Moi, quand j'ai appris que les Grecs anciens n'allaient pas à l'école avant l'âge de 14 ans, j'ai compris que finalement, on n'avait pas évolué vraiment. Il y a une époque de l'histoire où on était au sommet, et je pense que les Grecs anciens, à un certain moment de la Grèce antique, ils avaient compris que finalement, quand les jeunes arrivaient à l'âge de 14 ans, il avait le goût d'apprendre et puis il apprenait tout ce que nous on apprend en 10 ans, il l'apprenait en 2 ans parce qu'il y avait l'intellect, il y avait l'intérêt, puis généralement il savait lire à ce moment-là parce que la pression du groupe faisait qu'il avait le goût d'apprendre, mais par eux-mêmes, mais ceux qui voulaient jouer, ils pouvaient aller jouer. C'est ça le problème. Moi, je pense que quand tu joues, quand tu es dans la créativité, tu es dans l'intérieur, dans l'inspiration. Alors qu'à l'école, on te bourre la tête de choses qui ne servent absolument à rien. Moi, je vois rien que j'ai appris à l'école qui me sert à quelque chose aujourd'hui. J'en entends là, dans le public dire « Ah oui, mais apprendre à lire, à écrire. » Oui, mais mes parents auraient pu m'apprendre à lire. J'aurais pu l'apprendre par moi-même, par plaisir. C'est des fausses raisons.
Après, il y avait les tables de multiplication et autres, hein. Mais moi, je comprends, de mon côté, je me sentais très introverti à l'école, mais j'aimais quand même ça parce que c'était une façon là, de sortir de chez moi. Il y a aussi, chacun on le vit à notre façon, mais je pense que ça n'a pas eu un bon effet pour me permettre de m'épanouir.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avec Christophe Maé et sa chanson qui s'appelle « Je veux du bonheur ». Et nous revenons après avec le thème « Le bonheur sans objet ».
Prends ma main, je t'emmène. Je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud. Dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur. Je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est le bonheur sans objet. Alors pour l'auditoire là, qui se pose certaines questions, lorsqu'on nous dit aujourd'hui, il voudrait quelque chose d'un peu plus concret. Le bonheur sans objet, comment on peut le voir dans notre vie, qu'est-ce qui serait vraiment le bonheur? Essayez de vous imaginer de tout perdre. Bon, je ne vous dis pas de tout perdre, mais imaginez que vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qui vous resterait si vous n'aviez plus rien? Plus d'argent, pas de maison, pas de famille. Moi, je sais très bien que quand je pense à ça, je sais qu'il me resterait mes idées. Il me resterait mon œuvre qui m'appartient. Donc, il me resterait quelque chose. On pourrait tout m'enlever, il me resterait encore quelque chose. Est-ce que c'est le cas de la majorité? Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça pourrait être. C'est une question ouverte.
Une question ouverte. En tout cas, moi, si je m'imaginais, en tout cas, j'en suis assez proche, donc c'est quand même facile.
C'est ça. Moi aussi, je pense que tu es proche de cette idée.
C'est qu'il resterait le principal, c'est-à-dire le soi, ma divinité, quoi. Puis c'est ce qui est le principal, parce que anyway, je suis capable de créer ce que je veux. Donc je le perds, je l'ai, je le crée, je le déstructure, je le restructure, je fais ce que je veux. Donc en fait, j'ai aucun attachement, là. Ça fait que je ne risquais pas d'avoir peur ou d'être triste de perdre quoi que ce soit. Là, je me suis déjà retrouvée à San Francisco, je ne parlais pas anglais, pendant une semaine, dans la rue. J'étais super heureuse, quoi. C'était vraiment le fun, là. C'est libre, tout. Donc voilà, c'est mon expérience.
Moi, je pense, si par exemple je perdais tout, je pense le rêve et l'espoir, ce seraient les deux choses qui me resteraient. Parce qu'à chaque fois que, si tu as l'espoir, ça fait, ça, comme on dit, l'espoir fait vivre, en fait. Donc à chaque fois que tu penses que tu peux avoir quelque chose, tu peux aller plus loin, donc ça peut te rendre heureux, en fait. Le rêve, dès que tu peux rêver, dès que tu peux espérer, je pense que ça donne beaucoup de bonheur. Penser que tu peux aller plus loin que ça, oui, ça donne bonheur. Moi, ça, c'est ce qui me resterait, en fait.
Et toi?
Oui, c'est une bonne question. Hein. Moi, peut-être, je suis une nature un peu plus inquiète et tout. Je pense que même si au-dedans de moi, j'ai des bons fondements et tout, je serais bien avec moi-même, même avec moi. C'est parce qu'on dirait que j'ai une sorte de, pas de nostalgie, un attachement quelconque à l'univers que j'ai créé au fil du temps. Là, je suis dans une grande période depuis un an, mais depuis les derniers mois particulièrement, à faire un grand ménage, aller à l'essentiel de ce que j'aime, mettons par exemple dans mon appartement, les choses chez moi. Là, moi, je penserais tout de suite à mon chat, par exemple, ce serait la chose qui me manquerait le plus. C'est pas un objet, c'est un être vivant, mais en même temps, il fait partie de ma vie. Mettons ça, je trouverais ça très difficile. qu'il ne fasse, qu'il soit plus là. Donc, c'est pour ça que je suis plus mitigé, mais en même temps, je comprends que l'essentiel, il serait ce que je suis, mon attitude à aimer communiquer, à aimer la langue française, les gens, mon réseau de gens autour de moi, c'est ce qui compte.
Parce qu'on dirait que quand tu te détaches, par exemple, toi, tu es très détaché, on dirait qu'on attire des gens qui, eux, sont plus attachés, qui vont comme nous aider. T'sais, si jamais tu n'as rien, il y a quand même un support qui est dans l'invisible, des gens qui sont là. Moi, je me rappelle très bien que j'ai arrivé à un point dans ma vie où j'avais plus rien, vraiment. Après 10 ans d'aide sociale, j'avais pas du tout d'argent. Ma compagne venait de partir. J'avais pas d'amis non plus. Mais j'étais heureux comme ça se peut pas. J'avais travaillé plusieurs années sur moi-même. Je voulais effacer les programmes qu'on m'avait mis depuis mon enfance, dont je parlais à l'école et de la famille et tout. Tous ces programmes erronés qui ne me convenaient pas, je les ai tous enlevés. Moi, j'ai utilisé beaucoup les drogues psychédéliques en conjonction avec du yoga, avec des techniques très avancées de yoga et en même temps une connaissance encyclopédique de certains sujets qui m'intéressaient. Donc, j'avais combiné ça et j'ai réussi. Et j'ai atteint un point où même j'ai réussi à désactiver Nicolas Lehoux. Nicolas Lehoux n'existait même plus. J'étais dans la non-dualité. Et là, il n'y avait que la conscience. Il y avait la lumière blanche. Et j'étais tellement heureux. Et à ce moment-là, j'ai touché mon centre. Il y en a qui vont dire que ça s'appelle la montée du Kundalini. Moi, je ne suis pas très hindouisant, mais je peux voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand j'ai atteint cet état-là, c'est comme si j'avais touché le centre de moi-même. Il y a une source de lumière qui est montée en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'avais plus besoin de rien. Si j'avais des choses, des objets dans ma vie, c'était par plaisir. Que même si on me les enlève, je sais très bien que je vais quand même être heureux parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu plusieurs années.
Ouais, c'est intéressant de savoir, de se rendre compte que les choses auxquelles on était attaché, auxquelles j'étais attaché dans le passé, ne veulent plus rien dire aujourd'hui. J'avais un monde, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, où je me sentais très introverti. J'avais tout un univers autour de moi. C'était à l'époque des cassettes vidéo. C'était un peu mon adolescence, début de l'âge adulte, autour de 20 ans. J'accumulais, j'avais une bibliothèque vidéo. En tout cas, c'est incroyable. J'ai retrouvé des répertoires que je m'étais fait, cassette A, cassette 100, avec toute une description complète bibliothécaire. Puis c'était ça ma vie de l'époque. Puis là, j'ai tout balancé ça en quelques mois. Ben, tout, parce que c'était quand même beaucoup de travail. Tout ce que j'ai, le temps que j'ai pu passer à cette époque-là, plutôt que de vivre. Mais maintenant, ça a été ces derniers temps, ces dernières semaines, tout éliminer ces cassettes vidéo-là et ces fameux répertoires-là. Aussitôt que je l'ai jeté, ça n'existait plus. On dirait que c'est pour passer de l'introverti à plus extroverti, être davantage moi-même. Justement, donc l'objet qui était ces foutues cassettes vidéo-là, je les ai donc aimées, ces cassettes vidéo-là. À une époque, il n'y avait pas plus paradis que tout ce que
j'y trouvais. C'est ça, c'était une passion aussi.
C'est une passion, mais c'est une passion ça n'a plus de sens pour moi. Mais ce n'est pas évident, faire ce deuil-là, cette coupure-là. Il a fallu que je laisse le temps, que je me sente fondamentalement prêt à faire cette transition-là. Là, maintenant, accumuler quoi que ce soit. C'est quoi cette affaire-là d'acheter un DVD? Pour moi, dans ma tête, en ce moment, si j'ai aimé beaucoup un film, c'est très peu probable que je le revoie une deuxième fois, même si je l'aime extraordinairement. Ou si j'y tiens à ce moment-là, qu'est-ce tout ce qu'il y a autour de nous? Les bibliothèques, les cinémathèques, si j'y tiens, ou bien par Internet.
C'est ça, maintenant, avec YouTube.
Absolument.
Où j'ai acheté mes cassettes aussi dernièrement, j'y tenais aussi. Mais c'était un attachement émotionnel parce que j'y écoutais même pas. C'est même plus simple d'aller sur YouTube, écouter ma musique.
Ah, ça, on n'en finit plus, ça prend de l'espace, tout ça. Où mettre ça, ces DVD-là, ces histoires-là, ces médias pour enregistrer, là? Non. C'est pas à mode. J'ai un ami qui m'a trouvé le concept. Il dit, c'est pas à mode d'avoir des CD de musique, par exemple. Je trouvais que c'était une excellente idée. Plus à mode, ça veut dire que maintenant, il va avec nos lecteurs, MP3, tous ces trucs-là. Tout est en format électronique. Comme ça, on n'a plus besoin d'avoir l'objet.
Oui, comme tu as dit là, comme tu as expliqué ton expérience. Donc, c'est encore prouvé que si tu te connais, donc ce détachement va être plus facile pour toi.
Ouais.
Donc, des fois, pour faire le détachement, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais dès que tu te connais, tu sais ce qui va te rendre heureux, ce que tu n'as pas besoin. Donc là, ça va être plus facile de laisser, de passer, de, comme tu as dit, de l'introverti à l'extraverti.
Oui, mais c'est une découverte de cette émission-là aujourd'hui.
Ah oui?
Génial.
Je ne m'étais pas vraiment à ce point perçu comment j'étais autour de 20 ans. On me l'a dit d'une façon directe et indirecte, mais je n'en avais pas pris plus conscience qu'il faut. Mais cela se définit.
Mais le monde a beaucoup changé aussi. Ça change extrêmement rapidement.
Tout
et puis, je pense qu'il faut s'adapter aussi.
Ben, t'as comme pas le choix non plus, là. La société, tu mets pas vraiment le choix.
Si
là.
Tu t'adaptes pas, puis tu deviens un peu handicapé, moi, je refuse d'avoir un cellulaire. Et puis, des fois, je me rends compte que je me coupe des portes. Je me barre des portes. Veux dire, maintenant, ma compagne utilise beaucoup Car2Go à Montréal. C'est des petites autos que tu peux louer comme ça.
Certaines applications,
et
justement.
Oui, il faut que tu aies un téléphone cellulaire. Moi, j'en
idéalement,
ai pas.
Idéalement.
Je pourrais regarder avant de partir de chez nous puis en trouver une, mais une fois que je suis parti, j'ai plus accès. Donc... Et puis l'autre fois, je me suis ramassé au métro. La personne qui venait me voir était en retard. Mais là, je me suis dit, va l'appeler. Mais je regardais autour de moi, il y a pratiquement plus de téléphones publics.
Ouais.
Donc, ils nous amènent toujours à quand
à
je dis « ils », je parle des plutocrates, là, des gens qui nous font dépenser d'énergie. Et puis, quand tu es obligé de t'acheter un nouveau téléphone à chaque 2 ans, ou je sais pas, c'est peut-être à chaque année, c'est quand même des montants que tu dois travailler pour ça. Ils ne nous le donnent pas, là.
Ouais. Et... De toute façon, ils font tout en sorte que, justement, tu dépends d'eux. Là. C'est tout le temps comme ça. Mmh. Puis l'attachement est là, pareil, même s'il n'y a plus l'objet. Parce que tout à l'heure, tu as dit une chose par rapport au MP3 ou autre, les iPods et tout. Là. Mais il n'y a plus l'objet, tu dis. Mais ça revient au même. Moi, je parle au niveau vraiment attachement, ça revient au même. Quand tu regardes sur Internet, les gens, ils capotent. Là, quand ils ont perdu toute leur toune, là, de, ils disent « Ah, comment on transfère ?»
Leur
là,
liste
c'est,
de lecture.
Là, c'est leur... On voit, c'est vraiment mort. C'est une histoire de vie mort,
oui.
Là, c'est ça.
Ouais.
Hein?
C'est
ça revient au même. Il n'y a plus l'objet. Mais tu réagis pareil.
Ouais,
donc,
ça.
On est encore dans le même domaine de l'attachement et de la souffrance.
Moi, j'ai un autre exemple aussi. Moi, j'ai étudié en administration des affaires. Puis je peux vous dire que je ne fitais pas du tout dans le décor, moi, avec mes ongles noirs, mes cheveux bleus. puis, j'avais pas d'argent, puis j'avais pas d'auto, puis j'avais pas rien. Puis, j'intéressais pas les femmes. Je voyais bien que les femmes qui étaient en administration des affaires allaient vers les hommes qui avaient la petite mallette, puis qui avaient une auto, puis qui avaient. Moi, j'avais aucune chance. La seule femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai une relation, était un peu artiste, elle aussi. Puis, finalement, ça. C'était la seule. Elle était DJ dans une radio. Mais pour les autres, ça ne fonctionnait pas. Là. Tous ces gens qui étaient des comptables, des gens en administration.
Ben oui, c'est sûr, parce que par rapport à leur physique et ce qu'ils reflètent, ben c'est sûr, c'est ce qu'ils sont. Là, donc, tu ne peux pas matcher non plus avec eux. Là, donc, c'est sûr que même si tu ne pognais pas, tu t'en fous parce que toi, tu es ce que tu es. Et puis, c'est pour ça que tu as attiré quelqu'un artistique qui matche plus avec toi. C'est plutôt évident.
Puis 2 ans après que j'ai quitté l'école, c'était devenu obligatoire d'avoir un laptop, qui était un IBM, bien sûr. Il fallait avoir un Mac, un PC. Moi, je suis Macintosh. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais je veux dire, je pense que j'aurais changé de branche, là, peut-être. Je ne veux rien savoir des PC. Mais je veux dire, en administration des affaires, on avait un petit local de Macintosh avec 12 Macintosh pour 5 locales pleins de PC. Là. Puis les locales PC étaient toujours pleins. Fait que finalement, j'avais le plaisir d'aller dans les Macs, mais toute la société est axée vers l'extérieur, vers le bonheur extérieur.
Ouais.
Et je pense qu'il faut casser ça.
Il faut casser ça. Puis moi, je dirais aussi que le plus important, c'est quand tu es dans l'aide, dans la conscience, on a toujours de l'avance sur n'importe quelle technologie. Parce que justement, ils ne pourront jamais nous rattraper. Comme par exemple la télépathie.
Bravo!
Ben, laissez-vous pas rattraper, mes amis, et soyez heureux sans objet. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine et pour la fin de vos jours. Alors, merci d'avoir été parmi nous. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Merci au Mouvement Jovialiste. Merci à Radio H2O. Merci à Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Et on va passer à une chanson de John McLaughlin qui s'appelle « La danse du bonheur ».